Bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Que tous les êtres qui peuplent cet univers trouvent la paix et le bonheur.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.
Tout de suite, Tranche de Livre. Tranche de Livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans,
80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand, et sur www.librairielesvolcans.com.
Bonjour à toutes et à tous, Tranche de Livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Nous allons aujourd'hui être en compagnie de Pascal Louvrier et rentrer dans l'univers solaire, celui de Philippe Solaire. Entre les lignes, je me suis permis ce jeu de mots parce qu'on explore une autre planète littéraire avec, je dirais, un écrivain sulfureux qui, bien évidemment, nous ouvre à travers cet ouvrage les portes de sa vie privée. Et on verra ensemble avec Philippe Solaire, par la voix de Pascal Louvrier, comment les choses se sont passées à Venise, à Ré, à Paris. Et beaucoup d'échanges directs ont nourri un récit avec une tonalité solaircienne. C'est ainsi que la page de couverture l'indique au lecteur. C'est dominé par la littérature, les femmes, la société. On peut dire qu'on va visiter Solaire de l'intérieur, un personnage attachant, pour le moins iconoclaste, sensible, pudique. Et il est vrai que tous ceux qui ont en mémoire sa disparition ne manqueront pas de souligner ce manque, puisque le 5 mai 2023, il nous quitta en tirant sa révérence. Mais on peut considérer qu'à travers l'ouvrage de Pascal Louvrier, et, il survit, hein, il survit et il est toujours là dans nos mémoires, des mémoires qui sont reprises, bien sûr, par Philippe, que je salue. Philippe, c'est-à-dire, je fais de lapsus, hein, parce que vous êtes tellement fusionnel. Pascal Louvrier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette présentation qui est très solaircienne, parce qu'elle est rapide, efficace, ramassée. Donc voilà, on est tout de suite au cœur du sujet.
Oui, alors Solaire, c'est une aventure humaine avec Philippe Solaire, Pascal Louvrier. Je me trompe dans les prénoms tellement vous êtes imbriqués dans vos vies respectives, bien que vous ne soyez pas tout à fait de la même génération.
Pas du tout. Philippe Solaire, c'était de 1936. Ça aurait pu être mon père, et je l'ai d'ailleurs un peu considéré comme mon père spirituel quand je suis allé le voir pour la première fois en 1994, et je lui avais fait part de mon admiration, et je me souviens d'une émission qui est un peu à l'origine de ma vocation d'écrivain, et puis ensuite la fascination qu'il a exercée sur moi quand j'étais adolescent et jeune adulte. C'est, je me souviens, en 1983, il était invité d'Apostrophe sur le plateau de Bernard Pivot, et il présentait Femme, et j'avais trouvé absolument éblouissant présentant son livre avec beaucoup de précision, de brio, d'efficacité, utilisant des propos iconoclastes et m'apercevant tout de suite que j'avais affaire à un écrivain réfractaire. Et comme je suis très attiré par les écrivains réfractaires, bon voilà, ça a été une sorte comme ça de coup de foudre littéraire. Et j'avais dévoré son livre, Femme qui avait 25-30 ans d'avance, parce qu'on est en plein aujourd'hui dans ce qu'il écrit avec le wokisme, le néo-féminisme, qui ne sont pas du tout libérateurs, mais au contraire essayent de nous asservir de façon cruelle. Donc voilà, ça a toujours été un ami dans un coin de ma tête. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et ça a toujours été, lorsqu'il y a eu ces rencontres, ça a toujours été des rencontres vraiment extraordinaires, parce que c'était quelqu'un d'une très grande intelligence, d'une très grande culture et surtout d'une très grande disponibilité. Il avait toujours accepté de me voir, de répondre à mes questions. Et donc voilà, c'est une longue complicité que malheureusement la mort a interrompu brutalement l'année dernière, le 5 mai 2023.
Alors solaire, c'est sans faire ce fameux jeu de mots, il était solaire, bien évidemment. C'est aussi cet univers que j'avais évoqué tout à l'heure, dans sa grande complexité, une complexité mais qui était assez singulière, parce qu'il était issu d'un milieu bourgeois. Il était capable, je dirais, de susciter des avis favorables d'Aragon en allant jusqu'à Mauriac. Il était très transversal et à la fois rebelle. En fait, il a incarné une époque de la littérature des années 60 qui était très complexe par la pensée politique qui imbibait les auteurs. C'est vrai qu'il y avait une forme d'engagement qui tournait autour de son travail, quoi.
Oui, c'est très clair que ça a été un avant-gardiste très tôt. Il est entré en littérature en s'opposant à ses aînés, comme on le fait souvent. Alors lui, il l'a fait avec beaucoup de brillants, et effectivement, Solers, c'est un pseudonyme, puisqu'il s'appelle en réalité Joyau, ce qui était d'ailleurs pas si mal. Et il a écrit son premier roman en 1958, il a été adoubé, comme vous le rappelez, à la fois par Mauriac, François Mauriac, catholique social, et puis Aragon, Louis Aragon, le communisme. Donc il a eu les deux d'un coup. André Breton a dit également que les fées s'étaient penchées sur son berceau. Donc voilà, il y a un adoubement extrêmement fort. Par ses aînés, mais en même temps, chez Solers, il n'y avait pas cette volonté de révérer absolument, mais plutôt de se faire une place en littérature et d'entrer à la hussarde, quoi, carrément. Et par rapport à ce que vous disiez, puisqu'il est né à Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux, à Talence, il est issu d'une famille bourgeoise. Et il ne s'est jamais reconnu dans les codes de la bourgeoisie, et il a toujours été farouchement opposé à la bourgeoisie. D'ailleurs, dans Femme, il y a des passages qui sont très violents contre la bourgeoisie. Et donc, il m'a dit un jour, j'ai été contre mon camp et on ne me l'a jamais pardonné. Donc voilà. Bon, c'est un vrai réfractaire. C'est quelqu'un qui a mené sa partition en grand solitaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qui laisse aujourd'hui une œuvre considérable d'écrivain, de quelqu'un aussi qui a revisité la littérature avec des articles absolument extraordinaires, parce que novateur ou écrivant parfois sur des auteurs qu'on pensait connaître de A à Z, non, il apportait un regard neuf très original, et notamment je pense à ce livre de recueil d'articles qui s'appelle La guerre du goût, et qui est révélateur de ce talent de revisiter les classiques, les voyageurs du temps, comme il les appelait.
Alors Solaire est un mouvement permanent, au point d'arriver à faire le grand écart entre le communisme et le capitalisme. On va faire l'économie de la réflexion, parce que tout est dans le livre, les auditeurs, cherchez mon mot, vont le découvrir. Vous me direz que les éditeurs aussi ont dû le découvrir, bien évidemment. Et c'est vrai que Solaire, moi j'ai découvert ce personnage, qui était très médiatique. Il avait une image, il était assez iconographique, avec sa cigarette en permanence au bout de ses doigts, et une forme de dérision, une certaine élégance nonchalante, qui faisait de lui d'ailleurs un homme séduisant, qui aimait les femmes. D'ailleurs, il en a aimé des belles. Les deux de sa vie, je crois que vous l'évoquez dans le livre, c'est notre Julie... je suis en train de chercher son prénom, son épouse officielle, vous me remémorerez, et puis Dominique Rollin, qui fut sa passion, évidemment. Hein.
Oui, il était marié à Julia Kristeva, voilà. et effectivement, il l'a épousée dans les années 60, et il avait, avant dans sa vie, avant de connaître Julia, qui était d'origine bulgare et qui fuyait le régime communiste, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il l'a épousée, par amour, mais il l'a épousée aussi parce que sinon elle risquait de repartir dans son pays d'origine et d'être expulsée. Et donc le mariage a arrangé l'affaire sur l'instant d'un point de vue administratif. Mais il était avec Dominique Rollin, l'écrivain Dominique Rollin, avec qui il a eu une liaison tout au long de son existence, jusqu'à la mort de Dominique Rollin. Et c'est comme ça, grâce à Dominique Rollin, qu'il a découvert Venise en 1963. Et il allait au printemps et à l'automne de chaque année avec Dominique Rollin. Ils écrivaient ensemble, chacun dans leur coin. Et il n'est plus jamais retourné à Venise le jour où Dominique Rollin est décédé. Voilà.
Et là, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que, en fait, dans le livre, ce qui en fait d'ailleurs la richesse, je me suis demandé, mais quand j'ai reçu le livre en service presse, j'ai dit, bon, alors est-ce que c'est une biographie, une hagiographie? Et je me suis dit, en fait, c'est plutôt un jeu de miroir au sein duquel on voit en creux toute une époque et des personnages que, peu en avance dans le livre, on voit apparaître des personnages qui font un peu écho à sa présence. Je pense à Jean-Éder Nallier et bien d'autres personnages qui vont graviter autour de Solaire et faire de lui, je dirais, pas son système, mais son univers, quoi.
C'est-à-dire que c'est un livre un peu iconoclaste, effectivement. Déjà parce que ce livre, je l'ai commencé en 1994-95, quand je l'ai rencontré pour la première fois. Et comme on ne s'est jamais véritablement quitté, sauf les dernières années, parce qu'il était très fatigué, diminué, puis moi-même, je n'étais plus toujours à Paris, mais je l'ai toujours suivi, je l'ai accompagné à Venise, je l'ai accompagné, bien évidemment, à Paris. Il m'a fait découvrir des endroits absolument extraordinaires, où il poussait une porte et puis on se trouvait d'un seul coup dans un couvent avec les bonnes sœurs qui étaient très inquiètes de nous voir tous les deux d'un seul coup. Donc ça donne beaucoup de mouvement à ce livre. Solaire s'en a déjà lui-même, donc si vous voulez, il y a quelque chose de très vivant. Et je m'implique dans ce livre, qui pourrait être une sorte de roman, où effectivement, c'est moi, mais c'est aussi un narrateur qui est un peu imaginaire, même si tout ce que je raconte est absolument vrai. Et j'ai eu aussi la chance de le côtoyer à l'île de Ré. On a passé des journées extraordinaires. Donc voilà. Alors ça donne de la chair à ce livre et c'est surtout c'est un livre qui est assez intimiste. J'ai une analyse personnelle de l'œuvre de Soler. Je reprends la plupart de ses livres, je les analyse, mais pas du tout d'un point de vue universitaire, ça serait extrêmement pénible, mais plutôt à partir de ces rencontres successives que je fais avec lui et avec d'autres personnes. Après, vous avez parlé de Jean-Edouard Navier, où effectivement, j'avais rencontré, que je connaissais par ailleurs, qui m'avait d'ailleurs engueulé, qui m'a dit « qu'est-ce que vous faites à écrire sur Solaire ? On n'écrit pas sur Solaire, il ne faut pas écrire sur un type comme lui. » Enfin voilà, donc il se passait quelque chose à chaque fois quoi que j'évoquais le nom de Philippe Soler. Alors ça fait vraiment un livre totalement atypique et je crois que son intérêt premier c'est de voir Soler dans sa solitude, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en train d'écrire. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est vrai qu'on garde un peu l'image de cet homme qui se répand dans les médias. Alors il y a le fume-cigarette, il y a la coupe un peu particulière de curé, il y a ses bagues, mais bon, ces bagues, ça correspond à quelque chose, c'est pas des bagues comme ça achetées, c'est des bagues de famille, enfin bref, il s'est constitué un personnage, mais en fait, il a jeté en pâture ce personnage aux médias qui se sont jetés sur lui, et ça lui a permis d'avoir une existence en fait parallèle, clandestine, puisque la clandestinité joue un rôle très important dans sa vie, le cloisonnement, ça joue un rôle très important, et surtout, on lui fout la paix, et ça lui permettait d'écrire l'œuvre immense qui nous laisse aujourd'hui. Donc ce personnage médiatique, c'est un leurre en réalité. Voilà, il ne faut pas aller de ce côté-là, il faut creuser, il faut aller de l'intérieur, et c'est ce que j'ai fait.
Souffre en fait pour éviter de souffrir ou d'être exposé. En clair, Soler, au-delà d'images qu'il projetait, parce qu'il faut être honnête, peu de gens le connaissent aussi bien que vous. J'ai eu le sentiment, moi, de découvrir Soler, que j'avais l'impression d'être passé à côté de lui. À un point que, d'ailleurs, à un moment du livre, ça va vous faire plaisir, je pense, une écriture de Soler. Il disait « On pénètre sous les cupressus et les pins, on les entend crier dans les branches, bredouiller, plutôt, ponte ou fornication, lubrique et rond. Ça gargouille et grenouille, tuyauterie dans les gorges, chute, on ne voit rien, on se met à quatre pattes, on rampe, souffle rentré, on écoute mieux à partir du sol, couché là, tapis d'aiguilles et de brindilles. David trouve ça très drôle, se retient de ne pas pouffer, chute, on s'en va sur la pointe des pieds, on traverse les marais. David ne dit rien, moi non plus, on rejoint la route où passe une voiture grise sous le soleil. On passe par la plage déserte, encore en tournant, nous voilà revenus, comme si de rien n'était. La relation avec son fils, je crois que c'est David, moi j'ai trouvé ça magnifique. D'ailleurs, vous nous avez invité à la lire et à la relire. Je vous donne acte de votre injonction.
Écoutez, c'est très bien. Non mais voilà, vous avez résumé, c'est mon entreprise, en fait. Voilà, c'est celle-là. Moi, je garde avant tout le Soler, quand on allait nager au Martrais sur l'île de Ré, quand il me montrait les mouettes, le mouvement que décrivaient les mouettes, le héron cendré qui venait le visiter le matin dans sa propriété qui est près d'une zone sauvegardée, préservée. Donc voilà, et puis le nom des fleurs. Son célèbre acacia, le vent dans l'acacia, voilà. Enfin, c'était quelqu'un qui était très sensible à la météo, au temps qu'il fait, et beaucoup moins au temps qu'il passe en réalité. Donc ça ne fait pas quelqu'un de nostalgique, de mélancolique, surtout pas. Vous entrez dans un livre de Solers, si vous avez un peu d'oreille, voilà, vous allez tout de suite entrer dedans, puis si vous avez un peu le cafard, ça va passer tout de suite, quoi. Les nuages vont disparaître et on aura un beau ciel bleu comme sur l'Atlantique.
Oui, c'est vrai que c'est un livre assez atypique et j'ai découvert bon, la relation intellectuelle que Soler pouvait avoir avec Georges Bataille et toutes ses fidélités, ses infidélités au demeurant, et puis surtout ses dissensions avec Jean Edernalier, qui était lui-même aussi un autre personnage, pour le moins singulier, atypique, avec en arrière-plan cette closerie des Lilas qui termine le boulevard du Montparnasse, pour ceux qui connaissent, et la place qu'il s'attribuait dans cette brasserie que vous aviez. Moi, j'aimais aller dans ces lieux, c'est une des raisons pour lesquelles le personnage me plaît beaucoup. Enfin, je dirais le décor, j'allais dire un roman, c'est un roman, on va dire. C'est pas un tombeau, comme disait un critique, je sais pas, je l'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé que c'était très beau. Ce livre n'est pas un tombeau, c'est un roman, et je trouve que l'expression est très belle. Je la rends à celui qui l'a prononcé.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est Stéphane Barzac qui parle, effectivement, ce n'est pas un tombeau, qui lui aussi d'ailleurs a bien connu Philippe Soler. On a eu des discussions passionnantes parce qu'en fait, il a connu un moment donné où moi je ne connaissais pas encore Philippe Soler, de par sa famille et son grand-père André Barzac, notamment, qui côtoyait Dominique Rollin. Et puis après, à la fin de sa vie, il a continué à le voir. Et je vous dis, moi, j'étais plus trop à Paris et je l'avais un peu perdu de vue. Et donc, il a eu la gentillesse de me confier certains de ses souvenirs. Et donc, ça donne un élément supplémentaire au livre. Il y a une sorte de continuité. Il y a une passation de relais, en quelque sorte. Et ça permet de voir le Soler des dernières années, qui restait quelqu'un de très vif et dont l'esprit avait gardé toute son acuité. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. C'est un signe aussi, cette rencontre que j'ai faite et l'amitié qui nous lie à Stéphane Barzac.
Je ne m'étonne pas de voir que vous avez été attiré par ce personnage atypique, puisque quand on voit les écrits que vous avez pu faire sur Bardot, Emmy et Oanaus, on a bien sûr compris qu'il ne pouvait pas ne pas être attirant. Et Soler, en fait, pour ceux qui vont passer leurs vacances sur l'île de Ré, il a été inhumé à l'île de Ré, je crois c'est Ars-en-Ré, dans le cimetière de Ars-en-Ré. Et il avait fait une sorte de testament, mais une demande dans laquelle il souhaitait être enterré à côté des corps militaires qui n'auraient pas été réclamés à l'issue de la guerre. Il me semble que c'était des mitrailleurs australiens ou même néo-zélandais qui étaient tombés et dont personne ne se souciait. Voilà, en fait, c'est un personnage singulier qui avait le sens d'ailleurs du timing, parce que je crois qu'il a été inhumé le jour, ou même, pas la même année bien sûr, mais je crois que Dominique Rollin est mort le jour où il a été enterré, c'est-à-dire le 15 mai.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
En fait, c'est un homme qui est une sorte de comète qui traverse notre existence et qui nous a amené, je dirais, à traverser la pensée qu'il exprimait à travers la gauche, le communisme. On a vu dans le livre, on passe... bien évidemment à l'épisode de 68, qui faisait le ravissement de toute une partie de la gauche, bien évidemment. Et tout ça, ça nous amène dans un univers très littéraire aussi, parce qu'il y a tout dans le livre. Ce que les auditeurs devraient comprendre, c'est que dans le livre, on découvre en fait plus l'homme que l'œuvre, mais à travers l'homme, on arrive à comprendre l'œuvre. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais...
Non, c'est tout à fait ça, effectivement, parce que en fait, Solers parle toujours de lui-même, le narrateur de femmes, bah, bien évidemment, c'est lui. Après, bon, effectivement, l'écrivain fait toujours des modifications, c'est pas totalement lui, c'est en partie lui, et puis il a des livres qui sont cryptés, c'est-à-dire bon, il y a des femmes, il faut savoir qui elles sont réellement. Mais je l'ai fait un petit peu de dévoiler certains de ces personnages qui en réalité bon, ont existé, mais je crois que l'intérêt n'est pas vraiment là. Je crois que l'intérêt, c'est de lire cette, cette œuvre, en fait, qui est quasiment encyclopédique et qui c'est une sorte de mémorialiste de notre époque, de notre temps, et qui montre aussi par anticipation ce que nous vivons aujourd'hui et la société aujourd'hui qui a tendance à se refermer, à nous imposer des normes, des règles qui sont totalement asphyxiantes. Et quand on lit Solaire, c'est quand on le voit vivre tel qu'il a vécu, on se dit mais c'est pas possible, on a l'impression que c'est le 18e siècle. Mais non, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a eu une sorte de renversement qui s'est opéré depuis quelques années. Et c'est quand même salutaire d'avoir des gens comme ça qui, de par de leurs écrits, nous montrent qu'il y a quand même une autre voie à suivre et qu'il faut essayer de botter en touche quand la société... parce que la société, c'est l'ennemi. C'est, voilà, pour Solaire, c'est pour d'autres. C'est vraiment la bête à fuir. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Et c'est qu'en fait, c'est un anarchiste radical. Voilà, oui, il a été un petit peu avec les communistes, mais pas très très longtemps. Il était catholique quand il y avait Jean-Paul II, etc. Mais en fait, c'est des alliances de circonstances. Mais il avance par rapport à un schéma qui est le sien, qui est propre, qui est très personnel. Et voilà, parce que par exemple, avec la gauche, il était très très critique. Il ne fallait surtout pas lui parler de François Mitterrand. Sinon, il s'enflammait, là.
Alors, c'est vrai voilà. Que Solaire, en fait, dans la société, il était remarquable. Et dans son œuvre, dans la société, je dirais plutôt qu'il était remarqué. Et que dans le fond, il était plutôt remarquable. Et la nuance, elle est là. Et je pense, en fait, que il en avait rien à foutre d'aller à l'Académie française, alors qu'il aurait très bien pu postuler, à mon sens. Il considérait que l'immortalité passait pas forcément par le Quai Conti. Et tout ça, ça peut être que cet homme-là, quand on lit votre livre, on en sort, je dirais... J'ai l'impression de venir d'une autre planète. Moi, d'avoir fait une grande promenade avec vous, avec lui. Les œufs mayonnaise de bataille, ça m'a toujours amusé. Enfin, il y a toutes des anecdotes qui sont racontées, mais qui ne sont pas sous un angle people. En fait, il était le contraire des people. C'est un homme qui était plutôt dans l'être que dans le paraître, en fait.
Il était dans le travail. Il était... À l'île de Ré, je vous parle de ça, on n'avait pas les portables encore à l'époque, donc il y avait son téléphone fixe, et je pouvais pas passer comme ça, hein, il fallait que je l'appelle. Alors je l'appelais après 17h, quand il avait fini sa journée de travail, entre guillemets, d'écriture, et là je l'appelais, et il me disait, bon, aujourd'hui je suis fatigué, mais demain 17h, voilà, mais vous me confirmez, hein, vous m'appelez avant, hein, il fallait pas passer à l'improviste, parce que c'était un gros travailleur, là. Le matin, il ne sortait pas du tout. Il commençait vers 6h, 6h30, il travaillait, il faisait ses deux pages. Quand il avait fait ses deux pages, c'était une bonne journée. Voilà, il reprenait parfois un peu le soir. Mais quand il était à l'île de Ré, début juillet jusqu'au 20-25 août, il ne fallait pas le déranger, quoi. Il ne fallait pas passer à l'improviste. Non, c'était un gros bûcheur, gros travailleur.
En fait, si on regarde bien, il est la synthèse de tous ceux qui l'ont précédé, qu'il avait un regard voltairien, il est à la fois romantique. En fait, c'est un homme de synthèse qui a vécu en fait, d'une certaine façon libre. Et ça, c'est ce qui faisait tout son charme et l'intérêt du livre, puisque nous arrivons au terme de l'émission. D'ailleurs, le titre est éloquent, puisqu'il dit « C'est Philippe Solaire, entre les lignes ». Donc, il faut lire entre les lignes, et je crois qu'il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, merci Pascal Louvrier. Il ne faut pas dire Philippe, parce que, ceci étant, il est immortel. Merci.
Ben merci à vous de m'avoir invité une nouvelle fois. C'est toujours un grand plaisir.
Ben vous avez votre ronde serviette. Il faut reconnaître que tout ce que vous écrivez me plaît. Alors moi, je vais passer pour quelqu'un de... C'est pas du copinage. Sachez, chers auditeurs, que vous ne pouvez pas prendre un déplaisir à lire ces livres, parce que celui-ci, il est recommandé à tous les littéraires et aux autres, bien évidemment.
beaucoup à vous.
Bon après-midi et merci, à bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
La librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand vous a présenté Tranche de Livre, votre émission littéraire.
Retrouvez toute l'actualité de votre librairie sur le site www.librairielesvolcans.com.
Radio Arverne.